RMC, cours numéro 1.
You cannot be serious! That ball was on the line! Come on!
Ça sort, c'est fini! La France remporte la Coupe des Villes! Allons!
Anthony Reich.
Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, le podcast tennis d'RMC, évidemment disponible sur toutes vos plateformes de téléchargement. Merci, merci pour votre fidélité. On a vécu un Roland-Garros exceptionnel. Alors oui, je n'étais pas là tout le temps, mais je suis de retour, ça y est, après avoir pouponné pendant quelques semaines, après un magnifique intérim d'Eric Salio et de toute la team tennis. Un casting XXL cette semaine pour se regarder vers Wimbledon, le prochain grand chelem de la saison. On a une équipe magnifique pour cet épisode de cette semaine et le premier à entrer sur le court, et bien lui, lui, il sait comment gagner sur le gazon. Mais oui, médaille de bronze aux Jeux Olympiques de 2012. Salut Julien, salut Bennett.
Salut Anthony, salut tout le monde.
Eh oui, mais ça,
c'est vrai.
Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le dire.
Non, mais on était plusieurs cette année-là à avoir gagné.
Oui.
On était quatre.
C'est vrai.
Sur le podium, c'était un beau podium avec Richard évidemment et puis Joe Tsonga et Mikael Audra qui avaient fait argent. C'est un des très très bons souvenirs, si ce n'est l'un des meilleurs.
Elle est où la médaille?
Elle est chez moi, comment dire, je sais où elle est.
Elle est à la maison.
Ouais, elle est à la maison.
Bien
de temps en temps, ouais, elle n'est pas exposée, mais elle est visible quand même.
Excellent.
Ça fait son effet.
Ah oui, ça fait son effet sur le palmarès. La deuxième à entrer sur le court, eh bien, c'est une femme en colère, messieurs. Et oui, c'est une femme en colère parce que elle n'est pas très friande du retour de Serena Williams sur le circuit. Salut Sarah Pitkowski.
Salut à tous, salut les garçons. Non, c'est pas. Ah non, je vais préciser. Je suis pas sûre que ça soit une. Je suis pas sûre que ça soit une bonne chose pour le tennis féminin. Après qu'elle revienne, j'ai envie de dire. Mais je pense pas que ça soit une bonne chose pour le tennis féminin. Mais on va développer, hein.
Bien sûr, on va en débattre dans cet épisode de cours numéro 1. Et puis le troisième, et oui, puisque la tablée est immense aujourd'hui, il a déjà son polo, son short, ses petites chaussures à la mode London. Il est prêt pour partir au Wimbledon Club. Salut Morico, salut Eric Salio.
Salut à tous, oui. J'ai le pied jardinier, ça vous le saviez.
Il est membre hein, depuis le temps qu'il y va là-bas. Et...
Je suis member.
Oui, au vestiaire. Il a son macaron et tout.
Oui, ça y est.
Ah non, c'est pas le bon.
Tu vas avoir ta petite cabine là, tout en haut, là, sous le toit.
Oui, avec la clim.
On est, t'auras pas trop chaud.
Elle est gérée par un Australien, je ne vais pas citer son nom, mais qui met toujours 14 degrés. Donc dès qu'il s'en va, hop, on monte à 25.
En tout cas, tu vas te faire plaisir, comme tous les ans. Ça va être
un
magnifique tournoi.
J'espère qu'on aura un Français en quart, c'est tout ce que je veux.
Ah, ça y est, c'est un prono? Tu lances déjà les pronos?
Je veux un Français en quart, j'en ai marre. Hein. Moi aussi, c'est mon coup de gueule.
On va en parler, ça sera notre premier talk, notre premier sujet dans cet épisode de cours numéro 1. Les enjeux de ce tournoi de Wimbledon. Est-ce que Yannick Sinner restera le roi, le maître du gazon londonien? Le retour d'Arthur Fils qui s'entraîne à nouveau. On espère le voir dans quelques jours. Le retour de la Queen, Serena Williams, qui va jouer, qui a déjà joué en double, mais on va la voir en simple avec une wild card donc du côté de ce tournoi de Wimbledon 2026. Et puis, on s'arrêtera sur l'affaire. Et oui, c'est une affaire ces derniers jours. L'affaire Vandrousseau. C'est parti pour cours numéro 1.
Et un service gagnant pour la victoire de Yannick Sinner. Il était invaincu ici ou presque. Carlos Alcaraz. Mais le nouveau prince, le nouveau comte de Wimbledon, c'est Yannick Sinner qui remporte donc le titre sur le gazon et vient chercher un nouveau titre du Grand Chelem.
Ah, on va peut-être l'entendre dans quelques semaines, peut-être pas, ça dépend si un Anglais ou une Anglaise s'impose, mais faudrait pas, ça serait pas...
Non, ou alors, faudrait pas, parce que je pensais à la Coupe du Monde de foot, moi.
Ah.
Parce qu'il n'y a pas les hymnes, là, oui, mais quand tu gagnes.
Oui, c'est vrai.
Donc c'est pour ça qu'on l'entendra pas.
Ouais, mais peut-être
à la Coupe du Monde de foot.
Oui, là, ça serait mauvais signe pour les Bleus.
Julien, c'est génial, parce qu'à chaque fois que je suis à Wimbledon et qu'il y a la Coupe du Monde, chaque fois, j'entends le même refrain, It's coming home. Ouais. Et à chaque fois, on va les chambrer dès qu'ils sont minés. Ça arrive assez vite en général.
C'est
là, c'est un régal d'aller dans la salle de presse, de croiser les confrères anglais.
Ça devrait arriver assez vite cette année.
Non, mais ils ont une belle équipe. Hein. Attention. Ils ont une belle équipe.
Oui, quand même. Ah bon. Oui, on va évidemment s'arrêter sur les enjeux globaux. Le tableau, messieurs, pour commencer. Puis on parlera du retour, surtout de Serena Williams pour le tableau femme qui nous intéresse énormément dans cet épisode de cours numéro 1, les amis. Tout d'abord, bah, Yannick Sinner, qu'on n'a pas revu depuis ce fameux match très troublant et cette défaite au deuxième tour de Roland-Garros. Il s'est exprimé récemment en disant qu'il avait un peu tiré les enseignements de tout ça. Julien, est-ce qu'il peut tout simplement rester le maître de Wimbledon ?
Oui, parce que l'année dernière, il l'a prouvé dans des conditions, à mon avis, qui étaient plus difficiles mentalement. Alors, il va arriver physiquement avec cet accident qui s'est passé à Roland-Garros, mais il l'a dit lui-même, avec ce qui m'est arrivé à Roland-Garros, j'ai gagné du temps pour la suite. Donc ça veut dire qu'il a pu, à mon avis, faire le point, le bilan, qu'est-ce qui s'est passé. Normalement, même s'il fait très chaud en ce moment à Wimbledon, il n'y aura pas des chaleurs extrêmes qui vont l'impacter physiquement. Et moi, ce qu'il a fait l'année dernière à Wimbledon, gagner le tournoi en battant Alcaraz en finale un mois après avoir perdu cette finale de Roland-Garros avec 3 balles de match, je trouve que mentalement, c'était exceptionnel. Donc, effectivement, il est grandissime favori pour se succéder à lui-même. Je le vois, oui, parmi les deux grands favoris.
Sarah, tu es d'accord avec Julien ?
Oui, bien sûr. Je ne vois pas comment on ne peut pas mettre Sinner grand favori de Wimbledon, sachant que Alcaraz est toujours absent. C'est sûr qu'entre Roland-Garros l'année dernière et Roland-Garros cette année, il doit surmonter des petits traumatismes mentaux quand même qui sont assez importants. Il faut aussi savoir que c'est même un accident industriel, hein, Sinner à Roland-Garros quand même. Il est allé, semble-t-il, faire des examens, hein, pour voir effectivement s'il y avait des problèmes physiques, des déficits, peut-être des choses à améliorer ou des choses à travailler. En tout cas, comprendre pourquoi ces malaises corporels arrivent dès qu'il y a cette chaleur et puis surtout la récurrence de tout ça. On fait quand même attention, hein, parce que la chaleur, ce sera peut-être pas comme à Roland-Garros, mais il fait une trentaine de degrés quand même encore sur Londres en ce moment. Ouais. Je ne sais pas si ça va durer la semaine prochaine, mais je le vois grandissime favori. Pourquoi tu dis parmi les deux favoris, Bennett, tu vois qui toi comme deuxième grand favori ? Tu mets pas quand même Djoko ?
Eh si.
Tu mets quand même Djoko ?
Ouais, ouais. Eh ouais, parce que Djoko à Roland cette année...
Au même niveau que Sinner.
Non, pas au même niveau. Sinner légèrement devant, mais pour moi, Djokovic, c'est le deuxième favori. Je le mets devant parce que, ouais. Parce que tennistiquement, comment il jouait à Roland, et il s'est fait battre en 5-7 par un Fonseca qui était sur un nuage au cinquième.
Qui a été, oui.
Vraiment, ouais. C'était un niveau de jeu, mais exceptionnel. Et sur gazon, son jeu est naturellement plus efficace que sur terre battue, que physiquement, ça peut moins lui demander à Djokovic. Et donc, pour aller le battre, encore une fois, je me répète souvent, je dis ça, mais pour aller battre Djokovic en grand chelem en 5-7, il faut quand même sacrément bien jouer au tennis. Et y en a pas tant que
ouais,
ça.
Mais ça arrive quand même de plus en plus souvent.
Ouais, l'année dernière, il y a eu Sinner, Alcaraz et tout. Là, cette année, il était encore en finale de l'Open d'Australie. Là, OK, Roland, il y a eu ce truc-là. Mais oui,
mais
ça arrive
gazon,
de plus en plus.
C'est la surface qui va beaucoup bien plus sûr. L'économiser.
C'est pour ça que je dis ça.
Avec sa filière de jeu à lui, Eric, qui est tous les ans sur place, Djoko, il est sur la grille de départ, il fait partie des favoris. Hein.
C'est le deuxième favori des bookmakers.
Ah oui, tu vois.
Ouais. Voilà. Maintenant, il y a une donnée qui est intéressante, c'est que Djoko sera tête de série 7, c'est-à-dire qu'il peut jouer Sinner en quart.
Ouais,
c'est intéressant. Donc le tirage de vendredi sera très important. Je voudrais revenir sur Sinner, parce qu'effectivement, Sarah a parlé d'examen dans une clinique à Milan. Il s'est entraîné à Monte-Carlo sur dur et j'ai l'impression qu'ils avaient tout bétonné, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas accéder au court. Et de la terrasse, il y a des petits malins qui ont vu qu'il avait un petit patch au niveau du bras pour mesurer sa glycémie. Ah. Donc tu vois que rien n'est fait au hasard chez Sinner. Ils examinent tout. Ils veulent avoir toutes les données. Donc ça fait il est arrivé lundi, je crois, à Wimbledon. Il a joué sa première exhibition aujourd'hui à Hurlingham. Tout s'est bien passé. Il a des petites obligations médiatiques, c'est normal, hein, quand tu es tenant du titre. Mais tu sens qu'il... Et finalement, il a peut-être trop joué avant Roland.
Ah, il avait
enquillé tout.
Hein.
Et il s'est retrouvé pris au piège par la chaleur, mais peut-être aussi par une petite fatigue à la fois physique et mentale. Donc je suis d'accord avec ça. Il y a eu un accident industriel totalement incroyable.
Ça, c'est vrai.
J'en discutais avec notre producteur adoré. La cote de Cerundolo quand il y avait 5-1 au troisième set, il paraît qu'il y a un mec qui a mis 200 dollars. Il est milliardaire. Ça
il était à 2000.
Il était à 2000. Tu te rends compte, le mec qui a mis 200 alors que Cerundolo était à 2000. C'est complètement fou. Non, non, mais Sinner, ça va être intéressant de voir sa réaction. Mais il va peut-être aussi regarder le thermomètre parce que il reste
un garçon fragile. C'est 23-25 degrés les trois premiers jours.
Eh ben, il y a de la chance. Ouais, ça sera correct.
Ouais.
C'est le gazon restera vert quelques jours quand même. En tout cas, on aura quand même un Sinner qui sera revanchard certainement aussi. Et mais puis, il est tenant du titre, il ne faut pas l'oublier.
N'oublions pas qu'il est à zéro chelem cette année, comme Zabalenka.
C'est ce que j'allais dire, il n'a toujours pas soulevé le moindre chelem. Donc ça va peut-être aussi, à un moment donné, trotter dans sa tête et il va vouloir aller chercher ce premier grand chelem de la saison. Peut-être aussi parler des Américains, parce que quand on regardait, c'est ce qu'on se disait avec Eric, Julien, quand on regarde les premières semaines de cette saison
sur
gazon,
Tiafoe, bien sûr.
C'est les Américains qui performent.
Hein. Ouais. Ça ne m'étonne pas, les Américains en général, surtout eux, alors Shelton un tout petit peu, mais si on prend Fritz et Tiafoe notamment, ils sortent de la tournée européenne de Terre battue où ils ont passé 5 ou 6 semaines. Je pense qu'ils rentrent chez eux avant de revenir sur le gazon, parce que sinon, jusqu'à Wimbledon, ça fait hyper long.
Ça fait long.
Non, ça reste.
Ah non, Tiafoe, j'ai eu une anecdote de Stephen Brun. Le lendemain de son élimination contre Arnaldi, il s'est débrouillé pour avoir un cours au TC16 pour jouer sur dur.
Ouais.
Donc, et derrière, il s'est enquillé Halle. Non, les mecs ne peuvent pas rentrer. C'est pas possible.
Donc, mais leur jeu, leur mentalité et le jeu qu'ils ont, ça commode très très bien avec le gazon. Et quand tu arrives à Wimbledon avec des victoires sur cette surface-là, pour passer un tour un peu compliqué en fonction du tirage ou en fonction de l'adversaire qui, ce jour-là, joue très bien, te pousse un peu au tie-break du quatrième ou dans un cinquième un peu pourri, et ben, la confiance peut aider à franchir ces obstacles. Et effectivement... ces quatre-là, parce que chacun avec leur style de jeu, ils peuvent faire mal. Et il y a une donnée que Eric a commencé à affirmer qui va être très importante, c'est le tirage au sort vendredi, de savoir eux aussi où est-ce qu'ils vont se trouver dans le tableau en fonction de leur rente de tête de série, parce qu'un Fritz ou un Shelton sur gazon, t'as pas envie de le taper tôt dans le tournoi quand même.
Ouais, Sarah, moi j'ai envie de parler surtout aussi de Shelton, hein, qui joue super bien.
Ouais.
Bon, Tiafoe, moi je trouvais qu'il avait très bien joué à Roland-Garros déjà,
oui.
Parce qu'il a eu une traversée du désert assez longue. Mais Shelton joue très très bien, hein. Ça va être un homme très dangereux, hein, dans le tableau. Hein.
Ouais, c'est vrai que je sais pas d'habitude comment jouent les Américains, enfin j'ai pas le tableau en tête de l'année dernière. Mais c'est vrai que effectivement, Belchenton, Shelton, Tommy Paul et Fritz, oui, ils vont être à surveiller. C'est les joueurs qui sont en forme. Et on dit souvent que c'est important d'avoir des victoires sur gazon. Cette surface est quand même très particulière, même si Wimbledon a été ralenti avec les années. Ça fuse plus autant qu'avant et ce n'est plus uniquement réservé à des serveurs volleyeurs, mais quand même le déplacement est quand même très particulier et d'avoir des expériences, des réflexes, des victoires, ça doit faire quand même beaucoup de bien au moral. Après, c'est vrai que je regarde, on peut pas oublier Zverev non plus, hein. On va voir comment le tableau se déroule, mais
il va peut-être être porté par une aura de vainqueur de Grand Chelem.
Ouais, j'écoute, je sais pas, mais en tout cas, on peut pas faire abstraction. Bah, c'est ce qu'on pense, hein, Shelton, que ça a débloqué le compteur.
Shelton, il sera tête de série 4.
Ouais.
Donc déjà, pour lui, c'est très très bien, parce que ça veut dire que un Sinner ou
pas
un
avant
Zverev,
les demi,
c'est
pas avant les demi. Ouais.
Ouais, il est bien protégé.
Par contre, vous voyez, Fritz, ça sera potentiellement en quart de finale, Pareil, en Grand Chelem, Eric, on en a parlé suffisamment avant Roland-Garros avec Arthur Fils, s'il allait jouer, comment il va être. les rangs de tête de série, ça a quand même vraiment un impact sur le tableau. Donc, et puis aussi, il y a quelques joueurs non tête de série qu'il vaut mieux éviter aussi à Wimbledon, parce que tu peux avoir des tours très pièges avec cette surface où des joueurs jouent mieux que le classement qu'ils n'ont sur cette surface, qui reste un peu particulière, même si elle est un peu plus aseptisée, entre guillemets.
Oui, propice à des effets de surprise par moment sur les premiers tours, effectivement, Julien. Eric, tu nous parlais du fameux quart de finale, parce qu'on va s'arrêter sur les Français. Que peut-on attendre des Français, des copains? Parce que là, gazon, il y en a qui peuvent très bien s'exprimer. Moi, je pense à Giovanni Petit-Péricard, par exemple. Quel est l'état des lieux en ce moment, là, Rico, des joueurs français?
Il y aura trois Français qui seront tête de série, donc Arthur Fils, on en reparlera peut-être tout à l'heure,
oui.
Hugo Humbert et Arthur Hindertnech. Corentin Moutet, et c'est le dernier, il reste sur la touche.
Hugo Humbert, tête de série combien?
Bon, il sera dans la dernière fourchette.
Oui, dernière fourchette.
Ouais. Bon, c'est-à-dire qu'il aura un gros au troisième tour, quoi.
Ouais.
Mais Hugo Humbert, une fois, il avait failli pousser Alcaraz au 5e set.
C'est pour ça que je demande.
Ouais.
Je pense que sur gazon, Hugo Humbert, il a...
Non, mais tu as raison, Giovanni. Moi, je suis convaincu que son travail avec Greg Rusedski va payer. Personne n'aura envie de le jouer au premier tour.
Ah oui, ça.
Si te sert 40 aces,
L'année dernière, il avait fait 5-7 contre Fritz en deux jours.
Tu dois le battre, ouais. On ne parle pas. C'était demi-assuré.
D'accord.
Oh, tu connais mon optimiste légendaire. Mais non, mais c'était une occasion en or qu'il avait ratée. Non, je suis convaincu qu'il peut frapper fort. Il joue pas cette semaine, il fait une exhib, lui aussi à Hurlingham. Et Rusedski va lui apporter plein de choses. Je suis convaincu que ça peut payer. Maintenant, il faut... Enfin, même s'il a un gros au premier tour, je suis sûr qu'il est capable de le culbuter. Donc, je suis très optimiste.
Sarah?
Moi, je mise plutôt sur un... Enfin, miser. Je surveille plutôt Hugo Humbert. Hein. C'est un vrai joueur de dur. Le gazon, c'est une surface où sa patte de gaucher, elle peut avoir
ça peut faire des dégâts, vraiment. Ouais.
Et ça peut faire des dégâts, son revers qui passe au ras du filet. Enfin, si dans la tête, il est serein et il est pas, parce que je le trouve un peu réservé, enfin pas dire qu'il tremble un peu, mais je le trouve un peu sur la réserve, et s'il se lâche, pour moi Hugo Humbert c'est notre meilleure chance sur gazon. Après, je parle pas d'Arthur Fils parce que je sais pas où il en est physiquement, on sait pas. Pour moi c'est encore on s'est tellement aventuré, et normal, avant Roland Garros, ouais, on avait de telles attentes parce que saison sur terre, il revient en février, enfin c'était juste exceptionnel ce qu'il était capable de faire, que Arthur Fils, pour l'instant je mets un gros point d'interrogation, mais pour moi celui qui est à suivre sur gazon, c'est Hugo Humbert. Vraiment, c'est Hugo Humbert.
Et Julien? Je vais pas sortir d'autres noms. Mpechi, Hugo Humbert,
Arthur, c'est quand même...
Arthur, on sait pas où il en est. Donc, mais si physiquement ça va, il peut performer. Après, dans une deuxième rangée, alors un Rinderknecht en plus qui est tête de série, il a battu Zverev l'année dernière sur le central. Et j'en mets deux autres, de par leur style de jeu. Je mets Manarino. Ouais.
Mm-hmm. Marino, qui a pas trop mal joué, hein.
Voilà. Et Quentin, et Quentin Alice.
Quentin joue bien aussi. En ce
qui ont des vraies armes pour performer, et surtout aujourd'hui, par rapport à une certaine époque, il y a quand même plusieurs grands chelems de suite. Je parle pas pour aller en demi ou en finale ou gagner. Et encore, parfois, ça peut. Mais pour faire un huitième ou un quart. Il y a des trous dans les tableaux maintenant en grand chelem.
Oui, c'est vrai.
Il y a des opportunités à saisir. Ouais. Et il faut vraiment qu'ils se mettent dans la tête que c'est faisable, que c'est possible et que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et qu'en ce moment, ça arrive aux autres et ça n'arrive pas à nos Français. Mais vraiment de se mettre dans un état d'esprit où, quand tu es en galère, dans le quatrième, dans le cinquième, tu ne sais pas ce qui se passe sur le terrain d'à côté, et que finalement, ça se trouve, la tête de série que tu dois jouer au tour d'après, elle est en train de se faire sortir, et qu'au lieu de jouer un mec qui était la tête de série 8 ou 9, et ben il se fait taper au deuxième tour,
ça s'ouvre,
ouais. Et c'est toi, t'as galéré, tu t'es accroché, t'as gagné ton match au troisième tour au lieu de jouer.
Toi, t'es vraiment marqué par Roland Garros, hein.
Non, mais il y a plusieurs grands chelems et il y a un entraîneur français.
T'es traumatisé par Roland Garros.
Non, oui, mais parce que je suis traumatisé par aussi moi ce qui m'est arrivé. Moi, à une époque de ma carrière, j'ai été tête de série entre 25 et 32, plusieurs fois de suite. Et j'ai fait 8 fois de suite, troisième tour de Grand Chelem. Et les 8 fois, j'ai joué la tête de série 1-8. Elle n'avait jamais perdu. Et j'ai perdu à chaque fois. Et alors qu'aujourd'hui, ça n'arrive plus. Ça arrive de moins en moins. Il y a des mecs qui se font sortir, donc il y a des tableaux qui s'ouvrent.
Mais tu as quand même gardé le t-shirt de Federer.
Oui, mais lui, c'était un des 8, voilà. Mais
oui, parce qu'attends, il est allé réclamer le t-shirt de...
Bah, anecdote, oui. Anecdote. Ouais.
Oh, vas-y, Eric, je t'écoute.
Mais j'en ai rien à foutre, moi, de cette anecdote.
J'ai oublié son nom, comment elle s'appelle. Oh, c'est pas grave. Bon, en tout cas, elle a gagné.
Eh oui, vas-y, Mirico.
Donc, je sais plus quelle année c'est. Julien Beneteau perd 2012. Sur Roger Federer sur le center court. Il est, je sais pas combien de fois, à 2 points du match. À 2 points
six
du
fois.
Match. Tu te rends compte?
Il
peut passer à 6 fois à 2 points du match contre Federer. Donc, match énorme. Il le perd. Et après, bah, il va nous raconter l'anecdote. Il va dans le vestiaire. Il fait un truc que jamais il ne devrait faire.
En fait, cette année-là, je suis dans le vestiaire des têtes de série, en bas, il y a 2 vestiaires différents, et on joue le dernier match. Et donc, quand j'arrive dans le vestiaire, je suis le premier entre Federer et moi à rentrer, et je suis tout seul avec le mec du vestiaire. Et il y a Loïc Courtois, mon entraîneur, qui vient, et moi, mon kiné, Jérôme Bianchi, n'avait pas le droit de rentrer. Il n'avait pas, alors que les grosses...
I'm afraid you've got...
Exactement. Alors que les grandes têtes de série, elles en ont 5 ou 6. Et je demande gentiment au gardien du vestiaire, il me dit oui, pas de souci. Donc on est tous les 3. Et puis là, l'équipe de Federer rentre un par un.
22.
Anacone. il y a Anacone qui arrive, il y a Séverin Lutti qui arrive, il y a son kiné qui était français à l'époque, Stéphane Vivier qui arrive, etc. Et ensuite, Roger arrive. Et comme scène, c'est très bizarre parce qu'on n'est que 8 dans le vestiaire. Et pour moi, ça a été peut-être le plus beau match de ma carrière. Mmh. Et on s'échange 2 mots comme ça. Et puis, je dis à Federer, je dis, Roger, écoute, toi, c'est un match banal. Mais pour moi, ça a été spécial. Est-ce que, ça ne se fait pas dans le tennis, mais est-ce que je peux avoir un tes polo du match? Et il me dit, avec plaisir. Il me dit, tu veux quel set?
Et je dis, oh non, et
sadique.
Le
sadique.
Cinquième.
Non, et je lui dis le quatrième, que je peux me 7-6, 8-6 au tie-break. Je lui dis, c'était quand même un sacré set. Il me fait... T'as raison, c'était vraiment un sacré set. Et donc, il me l'a dit, il a mis la date pour Bennett et il a signé. Et c'est un des rares trucs que j'ai gardé de ma carrière.
Ah,
avec
excellent.
Mon premier polo de Clint Davis.
Est-ce que Bennett, ça, c'est exposé contrairement à la médaille olympique?
Non, ça, c'est pas exposé.
Oh,
mais
ça
mériterait. Ouais, ça mériterait d'être
encadré.
Encadré,
ouais,
exactement.
Encadré. Encadré.
Je sais où il est.
Sûr qu'il a même pas lavé.
Non, je l'ai pas lavé. Ouais. Il est un peu jauni, etc.
Il l'avait porté.
Ah, il l'avait porté. Il sortait de son sac, etc. Il est un peu jauni. Et mais c'est un des rares trucs que j'ai gardé.
Ah, très belle anecdote. Attention, Rico, t'as de la concurrence là. Très très belle anecdote.
Non, mais c'est moi qui l'amène une.
Ouais, là, il me l'amène sur un plateau.
On va continuer de parler des Français. Alors, on va s'arrêter quand même sur Arthur Fils, même si on est dans l'incertitude. On avait énormément d'attentes il y a 3 mois. On avait l'un des 5 meilleurs joueurs du monde dans le camp français. Il y a une, à nouveau, on peut parler de rechute. Hein. Eric, on l'a déjà évoqué dans cours numéro 1. Où en est Arthur? C'est très, très difficile de le dire aujourd'hui. Hein.
Moi, franchement, je pensais qu'il ne jouerait pas Wimbledon.
Et puis, on en avait parlé souvent.
Ouais, il y a eu un petit miracle. Il est apparu, on est jeudi, il est apparu dimanche.
Non, on est mercredi.
On est mercredi, pardon. Dimanche, il y a eu des fuites, des photos, des vidéos. C'est son préparateur physique qui a mis une petite vidéo. Et là, on a vu faire des exercices à Arangi Park, qui est le centre d'entraînement de Wimbledon. Et là, on se dit, tiens, il est là-bas. Donc ça, c'est déjà une super nouvelle. Il a joué le lendemain avec Yannick Sinner, toujours à Arangi Park. Bon, on ne sait pas combien ça a fait, mais il y a eu quelques témoins. Et hier, donc mardi, il a joué une exhibition à l'exhibition...
The Boodles.
Tu n'as jamais été invité à celle-là parce que ça a l'air magnifique. C'est à Stock Park.
Erlingham et The Boodles.
Le Boodles, c'est que j'ai regardé.
C'est incroyable.
Il y a 2 James Bond qui ont été tournés là-bas. C'est extraordinaire. Ouais, c'est à 40 bornes. Ouais. Je crois que les joueurs s'y rendent en hélicoptère parce qu'ils ont des moyens. C'est là où tu vois des spectatrices un peu bourrées qui trinquent avec les joueurs.
Fou, vas-y, reparle d'Arthur.
Et donc, il a joué au Boodles. Il a battu Mensik. Et aujourd'hui, je n'ai pas le résultat. J'ai essayé de regarder. Il jouait Tommy Paul. Donc, ça veut dire qu'il est en état de jouer.
Et d'enchaîner.
Et d'enchaîner.
Même si c'est des matchs d'entraînement, etc.
C'est des exhibs.
C'est quand même. Tu mets, c'est pas pareil qu'un entraînement à Arangi Park. Parce que tu mets la tenue, tu es là, tu veux quand même te tester. Donc c'est bon signe. Et en plus, j'ai lu ce qu'il a dit après son premier match. Tout va bien, ça s'est très très bien passé. On sent qu'il est précautionneux, c'est normal. Mais moi, je suis comme Eric, je suis agréablement surpris de le voir et de l'avoir vu dès dimanche.
On avait peur qu'on ne le voit pas du tout sur gazon. On voit que cet été sur dur. En fait, moi, j'ai envie de vous dire que pour Arthur Fils, sur ce Wimbledon, peu importe le résultat,
exactement.
Ce qui compte, c'est qu'il fasse 2-3 matchs. Et que son corps soit en bonne santé.
Il ne faut pas qu'il sorte sur une civière.
Et surtout, il a plus joué en grand chelem depuis Roland l'année dernière. Donc, c'est de voir comment son corps va réagir quand il va faire 4-7 ou 5-7, même si ça ne dure pas 4h30 ou 5h, même si c'est que 3h, 3h30, de voir en termes de concentration, d'intensité, à la fois mentale et physique, comment son corps va réagir avec cette longueur de match. Ça donnera une bonne indication pour la suite de sa saison.
Il a perdu 7-6, 6-1. Me souffle Flavien.
Ah, contre Arthur. Tommy Paul ?
Contre Tommy Paul.
Ah, j'aime pas le 6-1, là.
Ah, Eric, tout de suite. Le corbeau. Ça,
non, mais moi, je vous trouve... Sarah. Je vous trouve...
optimiste ?
Assez optimiste, ouais. Parce que... Effectivement, je suis comme vous. Hein. J'y croyais pas du tout. Et je me suis dit, pourquoi se lancer sur la saison sur gazon, sachant que tu joues aucun tournoi avant ? Est-ce qu'il vaut mieux pas se concentrer directement, aller soit recommencer la saison sur terre, soit sur dur ? Donc, j'ai été aussi surprise de voir ces images et de le voir potentiellement dispo et prêt à jouer pour Wim. Mais le fait qu'il y ait des exhibitions, ça vous rassure sur le fait qu'il va être au premier tour à Wim ? Moi, je trouve que c'est des bonnes occasions de se tester, mais pour moi, ce n'est pas une garantie qu'il soit prêt pour jouer Wimbledon, en fait. Parce que ces exhibs-là, tu ne les as pas avant Roland-Garros, tu les as particulièrement avant Wimbledon sur gazon, et tu sais que c'est aussi ultra lucratif. Donc, en fait, bien sûr, c'est plutôt rassurant, mais pour moi, c'est pas une garantie. C'est pas une garantie. Donc voilà, je suis un peu mitigé.
Ouais, je partage un peu ton avis, Sarah. Ah, Rico.
Bon, non, mais on dit que je suis le corbeau. Alors qu'est-ce qu'on doit dire de Sarah là
Dans son analyse, il va jouer.
Il a fait deux matchs, c'est en 2-7. Comme tu dis, il y a un 6-1, on ne sait pas ce que ça a donné. Ce qui va être déterminant, on est mercredi. Demain, à mon avis, s'il a fait deux matchs, ça va être light. Vendredi, il va remettre une saucée à Arangui. C'est de voir comment, si vendredi, après sa session d'entraînement,
ça va.
Bon, on peut légitimement penser que lundi ou mardi, il sera sur le terrain pour le premier tour. Après, savoir ce qu'il va donner, comme tu disais, Anthony, pour moi, c'est
accessoire.
C'est que du bonus, là, pour
l'instant. Oui, tout à fait.
Tant qu'il ne se blesse pas, qu'il arrive à jouer, à enchaîner un match, deux matchs, trois matchs, on ne sait pas, on verra. Ça, c'est tout bien, c'est tout bénef, entre guillemets, pour.
Oui, parce qu'il ne faut pas. Ce qui est important, en tout cas, si son dos va mieux, ce qui est important, c'est effectivement, ce n'est pas nécessairement Wimbledon, c'est d'aller faire la saison soit sur terre, je ne sais pas ce qu'il choisirait, soit sur dur, en prévision de l'US Open. Et tu reprends par des matchs au meilleur des 3-7 et non pas au meilleur des 5-7. Et encore une fois, le dos est moins sollicité sur 3-7 que sur 5-7. Donc, il ne faut pas non plus prendre des risques inconsidérés. Donc, pour moi, ce qu'on le voit là, pardon d'être un peu vénal, mais pour moi, c'est plutôt pour remplir les caisses. Hein.
Non, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, non, mais il y a un moment...
Non, ça, je sais que tu n'es pas d'accord avec
moi. Il faut qu'il se jette à l'eau. Voilà, il faut qu'il y aille.
Bah oui, tant pis si ça casse. À l'eau parce
tu
ne
peux
que
pas
c'est
rester comme ça sur un pied.
Non, pas tant pis.
C'est des super exhibes. On s'en fout du prix des exhibes.
Enfin, bien sûr que c'est des super exhibes. Mais c'est des tests grandeur nature.
Les montants de ses contrats. Non, je ne les ai pas.
Ah bah vas-y.
Ça tombe bien, je ne les ai pas.
Il n'a pas d'infos. Il a des anecdotes, mais il n'a pas d'infos.
C'est de pire en pire.
Ça t'a moitié des infos, quoi.
Jean-Michel,
on prend le pari. Il sera dans le tableau vendredi. Ah, certain.
T'as fait 40 minutes de vélo pour venir, t'en peux plus.
C'est ça,
t'es crevé, tu sais plus. On va finir sur le tableau féminin pour parler du sportif.
Bah,
mais en fait, c'est le sujet de Sarah. Là, attention, on va peut-être créer. On
t'as
va passer
un jingle,
à créer un jingle
pour
Sarah d'ailleurs. Bientôt. Puisque la principale attraction, ça sera évidemment le retour de la Queen, Serena Williams. On va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Sarah, est-ce une bonne nouvelle que Serena Williams revienne sur le tour?
Une bonne nouvelle, écoute, pour elle, forcément. En revanche, moi, ce qui me gêne un petit peu... Ouais, pour le tennis féminin, un peu moins, en fait. Juste remettre les chiffres. Son dernier titre, je parle de titre, pour Serena Williams, c'était à Auckland en 2020, il y a 6 ans. Son dernier match officiel, c'était à l'US Open il y a 4 ans. Elle a 44 ans. Elle a 2 enfants. Son dernier titre du Grand Chelem, mais on va être raisonnable, c'est pas après ça, après. Enfin, je veux dire, elle ne revient pas pour aller chercher un nouveau titre du Grand Chelem. En toute proportion gardée, elle vient parce que, comme elle l'a dit Andy Murray, j'ai été assez sidérée de voir ça. Elle pose la question à Andy Murray, est-ce que le tennis ne te manque pas ? Andy Murray lui répond, bah non, moi ça va. Et elle répond, mais moi, ça me manque terriblement. Donc je comprends qu'il y ait cette envie. En revanche, se présenter dans un tournoi du Grand Chelem avec une invitation sans avoir joué un match officiel en simple, je ne comprends pas. Et si par, je ne sais même pas si on parle de miracle, si elle gagne un match parce que elle va probablement être programmée sur un grand court, forcément, quand tu as gagné, quand t'as gagné 7 fois Wimbledon.
Ce sera le central.
Tu vois, moi, je ne suis pas sûre parce que les Anglais...
Allez, ça, deuxième pari.
Mais parce que tu ne sais pas son niveau aussi, en fait.
Mais ils s'en fichent,
il y a un
Anglais.
Moment...
Mais t'imagines les spectateurs qui ont des billets sur le central. Ils veulent voir Serena, lundi ou mardi, bien sûr.
Bon, alors, mettez-la sur le central. Elle va jouer une fille, pour peu que ça soit une joueuse qui soit 80, entre 80 et 110, 120. Qu'elle soit un peu impressionnée, qu'elle n'ait jamais joué Serena Williams. Et que Serena s'en sorte parce qu'il y a l'expérience, parce que l'autre est aussi un peu prise par l'enjeu, par la personne qu'elle a en face. Moi, je trouve que c'est pas bon pour le tennis féminin. Parce que je vous ferai juste revenir sur les filles qui... Enfin, le haut du classement du tennis féminin, entre Sabalenka, qui a quand même mentalement des gros problèmes, Rybakina, qui a le charisme, j'ose même pas dire, mais elle est effacée comme jamais. Swiatek, ah bon, alors là, ça va. Et Coco Gauff, qui a quand même des sacrés problèmes techniques. Enfin, je veux dire, d'avoir Serena, elle va capter forcément toute la lumière et si elle gagne un match ou deux, et ben en fait ça voudrait dire qu'en l'espace de moins de 5 ans, le tennis mondial féminin il a pas progressé. C'est pas bon, ça c'est pas bon. Qu'elle fasse le double, oui, mais le simple, franchement,
le tennis féminin il a pas progressé en 5 ans, non? On en a fait des débats et des débats. Donc
tu peux répondre Joker, Sarah, si tu
peux répondre Joker, si tu veux, Sarah. Mais
je sais pas quoi dire.
Il y a 7 ans, il était très très fort. Voilà, il y a 7 ans, en 2019, c'était très très fort le tennis féminin. Bien sûr. C'était très très dur de gagner la fête.
Mais on oublie une chose, Sarah.
Pile en 2019.
C'est un sujet qui est un peu touchy, mais elle a perdu 15 kilos. Elle est fit.
Alors, je vais me faire l'avocat du diable.
Non, mais attends. C'est pas parce que tu...
Attendez, je me fais l'avocat du diable parce que je souscris plutôt à ce que vient de dire Sarah.
Ok.
Mais regardez dans le ski, Lynn Sullivan, elle s'est arrêtée combien de temps ?
Oui.
Et elle est revenue.
Effectivement.
Elle est revenue, elle a gagné. Mmh. Avant de se blesser au jeu, elle était quand même numéro 1 mondial de la descente, leader de la Coupe du Monde de descente. Et qu'est-ce qu'on disait ? On ne se disait pas, les autres filles sont nulles. On disait
qu'est-ce que Lynn Sullivan est incroyable.
Lynn Sullivan, elle est exceptionnelle.
Bien sûr.
C'est incroyable. Elle était la queen. Et on l'appelait la queen, et Serena, c'est la queen. Et je pense que si Serena gagne des matchs, etc., on sera plus sur le prisme Lynn Sullivan en disant
bien sûr
que sur...
Oui, mais là, tu te bats contre un chrono. Là, tu te bats contre un chrono.
Le tennis féminin est de mauvais niveau. Non ?
Là, tu as une adversaire, en fait. C'est pas pareil.
Moi, je peux vous poser une question. C'est un tableau de 128.
Ouais.
Vous pensez qu'elle peut en battre combien dans le tableau ?
Oui, toi, tu dis 20, mais j'en sais rien.
Mais c'est...
Ouais, alors attends, tu sais quoi, je vais mettre Eric dans la sauce. Premier tour, vas-y. Serena, Loïse Boisson. C'est quoi la cote ?
Oh là là là, bah alors me demande pas de parier, je suis incapable.
Je pense que Serena est favorite.
Toi, tu penses que Serena est favorite ? Chez beaucoup de
cœur, soit elle est favorite.
Ah oui.
Ah oui, sûr.
Elle a joué un match sur herbe.
C'est parce que c'est le gazon, Loïse. Ou si peu.
Il peut y avoir un autre truc très drôle. C'est quoi son dernier match à Serena ?
Loïse de 4
heures. Non, oui, je te vois venir.
C'est son dernier match à Serena ?
C'est Harmonitane.
C'est contre Harmonitane.
Elle est au dernier tour des qualifs.
Elle est au dernier tour des qualifs.
Imagine, elle se qualifie.
Et après, il y a une chance sur 127.
Ah ouais.
Et là.
Ça, ce serait génial.
Et là, vous reprendrez mes commentaires d'il y a 4 ans. C'était mythique. C'était sur le Center Court en Night Session.
Oui, l'exploit monumental.
Je ne t'ai pas écouté parce que j'étais dans les tribunes. Tu disais quoi à ce moment-là ?
J'étais comme un dingue.
Non, mais c'est une vraie question. Combien Serena peut battre de filles ?
Ouais, moi, je dirais 20, 25, c'est sûr.
Au moins 30.
Mais rien que sur l'aura.
Mais bien sûr.
Rien que le vestiaire, tu connais le vestiaire du central.
Oui.
L'entrée sur le
coup, c'est un truc de dingue.
C'est mythique.
C'est pour ça que je dis qu'elle pourrait gagner un ou deux matchs sur l'aura, indépendamment du tennis.
Et après, le troisième, ça sera le risque. Et du coup,
le seul truc, c'est que, honnêtement, moi, j'ai regardé son premier tour en double au Queens. Alors oui, elle tape bien la balle, il n'y a pas de souci. Et j'ai vu des images. Et j'ai vu des images de ses entraînements. Le problème, c'est qu'on ne la voit pas se déplacer.
On ne la voit pas se déplacer.
Alors, à l'époque, à la fin de sa carrière, elle ne se déplaçait pas trop non plus. Elle faisait la différence par le service et sa frappe de balle. Est-ce qu'elle est capable de un peu mieux se déplacer ou de continuer à faire la différence comme elle le faisait? Ça, franchement,
c'est difficile à dire.
C'est pour ça qu'elle a attendu le dernier moment pour dire « Ok, je la prends, la wildcard », puisqu'ils ont attendu le dimanche soir.
J'espère quand même, parce que quand tu es une grande championne comme elle, et qu'elle est la plus grande joueuse, pour le coup, chez les filles, il n'y a plus de débat, c'est elle la plus grande joueuse de tous les temps. Quand tu fais un retour, qui plus est, dans le temple du tennis, là où tu as gagné, elle a gagné combien de fois là-bas? 6 ou 7 fois, Serena?
7, je crois.
7 fois.
Ouais. J'espère quand même que quand tu prends une invitation pour te pointer au premier tour en simple, c'est que tu sais que tu es un minimum...
Et compétitif.
Une joueuse de tennis, quoi.
Compétitive.
En tout cas, tu peux tenir un match. Ouais.
Exactement.
Tu peux tenir un match. Elle s'est préparée en secret. Elle a embauché un sparring partner avec un contrat de confidentialité. Surtout, tu dis rien. Tout le mois de mai en Floride. Ouais. Elle a deux coachs. Elle a une diététicienne. Elle a une préparatrice.
Elle a perdu beaucoup de poids.
Elle a une physio.
Mais attends,
c'est l'opération commando.
Bien sûr.
Et ça a été savamment... organiser la wildcard. On attend d'un moment, suspense. Elle répondait à Berlin, oh, vous croyez que... Et bing, la wildcard, elle tombe, bien sûr.
Ça. En tout cas, ça va être l'attraction principale de ce tableau féminin.
Avec Arthur Fils, vous nous dites qu'on se dit qu'en fait, des entraînements, ça n'a rien à voir avec le match. Et là, on voudrait prendre en considération qu'elle s'est super bien entraînée et que forcément, elle va être compétitive. Elle n'a pas fait ni d'exhibition, ni des matchs. Enfin, c'est une énorme inconnue, quoi.
Elle a bien tapé sûr, avec Sakkari. Alors que d'habitude, tu le sais, Sarah, les joueuses ne tapent pas entre elles.
On va attendre vendredi déjà, voir la place dans le tableau.
Ça va être truqué, c'est l'histoire des chips. Ils font semblant de les remuer et puis ils vont prendre le bon chip.
C'est les chips.
Allez, on va finir rapidement cet épisode, les copains, par l'affaire du début de semaine, c'est l'affaire Markéta Vondroušová. C'était important d'en parler parce que ça a fait beaucoup de bruit dans le microcosme du tennis. Rico, rappelle-nous un petit peu les faits. Donc, elle est suspendue. Donc, on le rappelle, championne de Wimbledon 2023 et suspendue 4 ans pour avoir refusé de se soumettre à un contrôle antidopage.
Non, mais moi, ce qui m'a interpellée, c'est donc elle a posté un truc sur son compte Instagram, Marquetta, en disant qu'elle s'est jamais dopée. Oui, ça, d'accord. Et il y a eu les réactions de toutes les joueuses, enfin toutes, j'exagère, mais un paquet de joueuses qui étaient derrière elle avec des petits cœurs brisés. On est avec toi, courage. Mais attends. Elle a refusé un contrôle antidopage dans des circonstances qui sont très troublante. Alors, on en a parlé avant l'enregistrement du podcast. On ne sait pas si c'est un contrôle inopiné ou si le contrôleur est arrivé dans les horaires indiqués. Mais quand même, Marquetta, tu as un mec qui sonne à ton interphone, qui se présente. Tu l'as vu, parce qu'elle a un appart assez
cossu,
donc elle voit très bien le monsieur. Elle dit non. Elle panique, elle appelle son agent, elle appelle son coach. Elle dit non, je suis en panique. Une heure plus tard, deux heures plus tard, elle sort promener son chien. Le contrôleur est encore là. Il se représente à elle. Il lui fait signer la décharge en disant « Vous refusez donc
de vous soumettre
au contrôle d'intopage ?»
Et elle le signe.
Mais bien sûr, elle a signé.
Elle a signé
son arrêt de mort.
Imaginez deux secondes que ça arrive dans un autre sport.
Bien sûr. Ça aurait l'effet d'une bombe.
Où il y a des pédales et des roues.
Par exemple.
Voilà.
Au hasard.
Mais c'est mort.
Mais bien sûr.
C'est mort.
Alors, il y a un autre débat. Il faut 4 ans. Je trouve ça.
Non, mais
c'est peut-être trop.
Non, je suis désolé. C'est pas un débat.
C'est dans les règles.
C'est le règlement, c'est les textes réglementaires.
Tu peux mettre 2 ans. 2 ans, c'est quand même bien dissuasif.
Moi, je croyais que c'était 2 ans.
Elle va faire appel. Peut-être qu'elle va gratter.
Mais tu as un contrôle. Tu le sais que si tu refuses ce contrôle,
oui,
tu t'exposes. C'est comme si tu étais considéré
exactement.
Positif et
exactement
tu prends le maximum. C'est, voilà, c'est la règle.
C'est la règle
donc le soutien des joueurs, je suis dégueulé. Je suis désolé. Voilà. Moi, ça passe pas. Elle a fait une énorme boulette. Ça peut arriver. Alors, elle dit que c'était le stress, tout. Non, Marquetta, je suis désolé. Ou alors, elle cachait quelque chose.
Voilà, c'est ben ça. On va enquêter. Tu vas avoir des infos à Wimbledon pour.
C'est des vrais, pas la moitié des infos, non.
C'est ça. Mais oui, c'est quand même une affaire notable.
Ça sera pas tête de série,
qu'il faudra suivre et qu'on va suivre dans cours numéro 1 dans les prochaines semaines parce que ce n'est pas anodin ce qui s'est passé pour Marquetta Vondroušová. Merci les copains de cet épisode de cours numéro 1 à quelques jours de Wimbledon. Eric, tu vas prendre l'avion ou le train peut-être.
Le train, l'Eurostar,
évidemment.
Et en avance, hein, c'est le bordel à la gare du Nord.
Ouais, fais attention ce moment. C'est le bazar. Bah,
l'année dernière, je m'étais présenté le samedi avec un billet du dimanche ou l'inverse. Ouais.
Voilà, par exemple. Donc, prends tes précautions, prends ta crème solaire et sois prêt pour les grandes gueules du sport dès dimanche hein, parce qu'on aura besoin
dimanche,
de toi.
Je pourrais pas.
Pour nous faire vivre ce magnifique Wimbledon. Merci, Massara. À très bientôt sur RMC.
Il n'y a pas de quiz.
Non, il n'y a pas de quiz.
Georges Quirino a mal travaillé, il n'a pas fait de quiz pour nous.
J'avais tout révisé. Bah, sur tous les vainqueurs de Wimbledon, hommes et femmes, moi j'avais révisé.
Ça sera pour la rentrée en septembre.
Ouais,
sois prête.
Très bien. Bon, bah tant pis.
Tu prépareras ça sur la plage. Allez, bisous, Massara. Ciao.
Ciao.
RMC,
cours numéro 1.